Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec les neveux de René, Chemin de Pensée. Nous sommes ensemble pour 25 minutes de discussion pour la découverte de la philosophie. Et une fois de plus, nous sommes dans un format spécial. J'ai le grand honneur et le plaisir d'inviter François Vezin pour une discussion autour de Rameau et Descartes. Alors, bonjour François Vezin.
Bonjour.
Lors de l'émission précédente, nous avons discuté du lien entre Rameau et donc Jean-Philippe Rameau et René Descartes, et le philosophe René Descartes. Et vous nous disiez qu'une des originalités de Rameau, c'est qu'il s'était révélé à lui-même en quelque sorte grâce à Descartes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, peut-être, à quel moment dans sa vie cette révélation, enfin, ou ce travail-là a eu lieu, enfin, comment ça peut se voir, entre guillemets, dans l'œuvre de Jean-Philippe Rameau?
Bon, à quel moment précis cela a eu lieu, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir puisqu'on sait très peu de choses sur les premières décennies de la vie de Rameau. Mais, bon, à l'époque de la jeunesse de Rameau, Descartes était très célèbre. On le lisait beaucoup, on en parlait beaucoup. Donc, l'abrégé de musique de Descartes, par exemple, et d'autres œuvres de Descartes, notamment le discours de la méthode, ont pu facilement lui tomber entre les mains. Il me semble probable qu'il a lu ça très jeune. Il a lu ça très jeune et ça l'a profondément atteint. Descartes dit, par exemple, dans le discours de la méthode, « Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai avec le faux pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. » Bon, j'imagine Rameau prenant cette phrase pour argent comptant et se l'appliquant à lui-même. « Voir clair en moi-même, qu'est-ce que c'est que la musique ? Qu'est-ce que c'est que la musique ? Qu'est-ce que c'est qu'être un musicien ? Je veux voir clair. Je veux voir clair sur ce point. » Et c'est ce qui l'amène à écrire son traité de l'harmonie réduit à ses principes naturels, avec le mot « principe » qui fait évidemment écho à Descartes et à une œuvre de Descartes comme « Les principes de la philosophie ».
On pense aux principes de la métaphysique, mmh. On pense à Leibniz avec les principes de la nature et de la grâce.
Oui, bah, tout le cartésianisme ambiant parle en termes de principes à cette époque-là.
Donc, ce que veut faire Jean-Philippe Rameau, c'est appliquer à la musique ce qui a été fait dans le domaine des mathématiques et de la métaphysique.
Oui.
Et a priori, on a l'impression que ce sont deux domaines qui sont hétérogènes, incompatibles, qu'il n'y a pas vraiment de passage possible.
Ils ne sont pas tant que ça. Oui. Ils ne sont pas tant que ça. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos représentations, ce sont deux domaines bien séparés. Pour nous, dans notre société actuelle, un professionnel de la philosophie et un professionnel de la musique, c'est deux choses totalement différentes.
Et un professionnel des mathématiques encore plus.
Également. Bon. Alors, il faut nous replacer dans cette époque-là. Et je pense qu'il faut prendre les choses sous un angle différent de celui que nous prenions en parlant précédemment. Ce qu'il faut voir, c'est pas simplement que Descartes a été très important pour Rameau, que Rameau a fait une lecture vraiment personnelle de Descartes. Mais il faut voir aussi qu'il y a chez Descartes un rapport important à la musique. Et que Rameau constitue un exemple privilégié de ce que j'appelle la postérité musicale de Descartes. Donc, Descartes vit à une époque où on sépare très peu musique et philosophie. Musique, mathématiques, philosophie, tout ça, ça ne fait qu'un. On appelle ça des sciences. Par exemple, le discours de la méthode, bon, Descartes a donné trois échantillons, la dioptrique, les météores et la géométrie. J'incline à penser que s'il avait voulu mettre un quatrième échantillon, il aurait mis son abrégé de musique, quitte à le remanier un peu, à le retravailler. Donc, Descartes est lui-même musicien.
Oui.
Descartes est lui-même musicien. Bon,
Il joue du luth, c'est
oui. Ça oui, on sait qu'il jouait du luth, on sait qu'il possédait une flûte, donc il devait bien en jouer un peu. Il a fréquenté des musiciens. L'intérêt pour la musique n'est pas un à côté du tout dans la vie de Descartes.
Et on a l'impression que la musique, c'est quelque chose qui ne se décompose pas.
Oui.
Alors que Descartes, vous me dites si je me trompe, mais le fondement vraiment de sa méthode, c'est quand même de décomposer en parties élémentaires, puis de recomposer le tout.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas deux mouvements antagonistes entre... Parce que si aujourd'hui les sciences ont progressé autant, que ce soit la physique, la chimie, la biologie, c'est en appliquant cette couper les cheveux en quatre jusqu'à arriver aux composants élémentaires, enfin, c'est en tout décomposant, en décomposant chaque chose en ses parties les plus élémentaires. Est-ce qu'on peut faire la même chose en musique ? C'est-à-dire, si on décompose un morceau en notes, à quoi on arrive ? On arrive à quelque chose de vide, quoi, parce qu'une note en elle-même ne porte rien.
Bien entendu. La mélodie vit d'harmonie. La mélodie vit d'harmonie. C'est-à-dire, ce qui compte en musique, ce n'est pas la mélodie, c'est-à-dire la suite des notes, c'est l'enchaînement des accords.
Oui.
Enfin, la musique, elle est dans l'enchaînement des accords. Et c'est pourquoi l'harmonie est l'a priori phénoménologique de la mélodie.
D'accord. Alors, vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par a priori phénoménologique, parce que je suis pas sûr que les auditeurs...
C'est la base, oui. Bon, c'est la base. Je dis ça avec un peu d'intention polémique, c'est-à-dire, je pense à la méchante polémique de Jean-Jacques Rousseau contre Rameau, qui... distingue fortement mélodie et harmonie et croit s'opposer à Rameau et ruiner ses vues sur la musique en disant que ce qui compte en musique, c'est la mélodie. On ne peut pas dire que la musique de Rameau soit mélodiquement pauvre. Ça ne tiendrait pas debout.
Alors, dans un des textes que vous avez écrit, enfin, dans une conférence même, vous citez cet article... Est-ce que c'est un article de l'Encyclopédie ou harmoniste ou d'un dictionnaire...
Non, le dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau.
Le dictionnaire de musique de Jean-Jacques...
Jean-Jacques Rousseau a fait un dictionnaire de musique, qui pour l'histoire de la musique, qui pour la musicologie est une mine, est un document très intéressant à étudier. Mais il y a beaucoup d'allusions venimeuses à Rameau dans ce dictionnaire. Il y a toute une polémique sourde, il y a beaucoup de coups bas...
Et donc, par exemple, à un moment donné, harmoniste, Jean-Jacques Rousseau dit « Musicien savant dans l'harmonie, c'est un bon harmoniste. Durant est le plus grand harmoniste de l'Italie, c'est-à-dire du monde. » Donc ça vous a fait bondir.
Oui. C'est une méchanceté qui vise Rameau, c'est évident. Alors que Durante est un musicien aujourd'hui un peu oublié. Enfin, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la musique de cette époque-là. On redécouvre des choses parfois très, très belles, très importantes, qui avaient sommeillé... Dans les bibliothèques pendant longtemps. Enfin, on ne peut pas dire que Durante soit le plus grand harmoniste du monde.
Et donc, vous pensez que cette polémique a fait du tort à Rameau, hein,
c'est... Ah bah oui. Rousseau a été méchant et il a presque ruiné la réputation de Rameau, et qui a mis un siècle et demi à en sortir. Il commence à en sortir. Bon.
Et est-ce qu'on peut dire que ce que va faire Voltaire avec Leibniz, c'est un petit peu du même ordre ou... Parce que, évidemment, Voltaire n'atteint pas Leibniz, peut-être, comme Rousseau va atteindre Rameau, mais est-ce que c'est du même ordre
Il faut être prudent dans ce genre de parallèle, mais le fait est que Voltaire, avec un extraordinaire talent d'écrivain, a ridiculisé Leibniz, a réussi à ridiculiser Leibniz, et par là même a brisé le dialogue philosophique entre la France et l'Allemagne pour très longtemps, très longtemps. Mais Voltaire déteste la philosophie.
Alors, on va revenir au texte que vous aviez écrit, donc cette enfance retrouvée à volonté. Et vous dites, le philosophe est un grand enfant, c'est
oui.
ça pourtant, le philosophe, lui, se présente comme quelqu'un de sérieux, on le voit plutôt en train de lire des livres, développer des théories. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer cette enfance ? C'est-à-dire, l'enfance, c'est le moment où on est touché, où on s'ouvre au monde.
La fraîcheur, le premier regard sur le monde.
Oui.
Le premier regard sur le monde, c'est ça que je veux dire.
Oui. Et d'après vous, donc, en fait, Jean-Philippe Rameau, c'est celui qui a su garder ses premiers émois où il écoutait un vielleux, un accordéoniste dans la fête du village. Et c'est ça qu'il a su garder toute sa vie durant.
Oui, c'est ce goût qu'il a pour les musettes. Il y a des musettes dans tous les opéras de Rameau. C'est un peu étonnant, c'est un peu inattendu.
Musette, c'est un instrument traditionnel.
C'est un instrument traditionnel et populaire, très, très employé à l'époque, au XVIIIe siècle, dans le monde rural.
D'accord. Alors, on peut peut-être revenir à Descartes. Aujourd'hui, Descartes, ça nous évoque d'abord la science.
Oui.
On pourrait même dire la technoscience, science devenue technoscience. On en a parlé dans ce même studio ici, dans les locaux de RCF, avec Jean-Marc Lévy-Leblon qui était nous parler de technoscience. Que dirait, d'après vous, Descartes s'il revenait de nos jours, justement ? Est-ce qu'il dirait pas qu'on a mal interprété le trésor qu'il nous laisse à travers la méthode ? Est-ce que on voit la catastrophe écologique, la violence du monde, les guerres, les famines qui continuent, même si on a le pouvoir de produire plus, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de détraqué dans la postérité, peut-être non musicale, de Descartes ?
Oui, bon, essayer de deviner ce que dirait Descartes s'il revenait sur Terre aujourd'hui, ça, c'est impossible. Je peux pas me mettre à la place de Descartes. Ce que je peux dire, c'est que dans la façon dont on lit et dont on comprend Descartes aujourd'hui, il y a quelque chose qui me semble un peu étroit. C'est-à-dire, on attache une importance colossale à l'appel que lance Descartes à la fin du discours de la méthode, à nous, les êtres humains, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors, on voit là le point de départ de tout le mouvement scientifique et technique ou technologique des siècles suivants et jusqu'à aujourd'hui. Bon, on voit ce qu'on a appelé la révolution industrielle en gestation déjà dans cette phrase. Alors que cette phrase, sous la plume de Descartes, elle est, je crois, écrite surtout dans une intention charitable.
Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit de soulager l'homme de ses peines, de ses maladies, de ce qui l'accable.
Soulager le travail des hommes, soulager les souffrances des malades, et des choses de ce genre.
Mais précisément, est-ce que
cette phrase est écrite dans une intention charitable. Ça, il faut bien le souligner. Parce qu'on en fait aujourd'hui une interprétation technologique. C'est la naissance de la technique moderne. Tout est en place pour le développement qui va se poursuivre du XVIIe au XVIIIe siècle, du XVIIIe au XIXe et jusqu'à aujourd'hui, au dernier cri de l'informatique.
C'est ça. Et est-ce que Descartes n'est pas peut-être à son insu, justement, en train de préparer ce qu'on pourrait appeler le déploiement du principe de raison, c'est-à-dire
bien sûr. Le principe de raison est formulé par Leibniz, mais il est d'esprit cartésien. Leibniz ne fait qu'ajouter, que mettre les points sur les i.
Donc quand vous dites Descartes, il écrit cette phrase-là avec une intention charitable, ça veut dire qu'il ne voit pas lui-même ce que les hommes vont en faire.
Il ne voit pas entièrement. On ne peut pas dire non plus qu'il ne voit rien, qu'il est aveugle, mais il ne peut pas voir entièrement. Ce que je voudrais surtout souligner, puisque nous parlions de Rameau, c'est que il y a des possibilités dans la philosophie de Descartes qui ne sont pas encore mises à jour.
C'est ça.
Donc quand je dis il y a une postérité musicale de Descartes,
oui.
Et j'en vois l'illustration dans le cas de Jean-Philippe Rameau.
Oui.
Donc il y a pas que la maîtrise et possession de la nature.
C'est ça.
Pensée de Descartes.
Et donc il pourrait y avoir d'autres postérités cartésiennes.
Voilà. Et il y a une postérité musicale de Descartes. Donc ça me semble une piste de recherche.
D'accord. Et est-ce que vous pensez justement que penser à d'autres postérités de Descartes pourrait nous aider à construire un monde justement qui soit moins déréglé, qui soit moins dans la fureur de la maîtrise ?
Oui, parce que vous demandiez, est-ce que Descartes a été mal interprété ? Tous les philosophes peuvent se plaindre d'avoir été mal interprétés.
D'accord.
Alors,
mais j'avais en tête aussi quelque chose, c'est qu'on là, on essaie de prendre du recul sur l'histoire de la métaphysique, mais c'est Heidegger donc, qui avait dit, quand on parlait de la bombe atomique, que la bombe atomique avait explosé il y a bien longtemps. Alors, il dit chez Parménide. Hein. Je pensais déjà, que c'était chez Platon. Dans le poème de Parménide. Mais est-ce que ça veut dire, justement, que l'histoire de la métaphysique, elle est commandée par un fil, ou est-ce que... Quelle place, si vous voulez, nous avons à faire dans ce déroulement? Est-ce qu'aujourd'hui, c'était écrit, à partir du moment où Descartes donne ses principes, que nous allions avoir le changement climatique, les guerres, l'arme nucléaire, tout ça? Ou est-ce qu'on aurait pu suivre un autre chemin?
Il ne faut pas être fataliste. C'est-à-dire il ne faut pas réduire ce que dit Heidegger à un déterminisme plat. Mais ce que Heidegger nous invite à voir, c'est la profondeur du mouvement de notre histoire.
D'accord. Mais si justement quelqu'un qui vit dans le monde au quotidien, il a des problèmes avec peut-être sa famille, peut-être avec ses collègues, n'importe, il ressent de la violence, ou si c'est un réfugié qui doit fuir son pays, ou quelqu'un qui doit subir la guerre dans son pays, vous pensez que tout cela est lié justement à un mouvement métaphysique qui commande la structure de notre temps et qu'on peut s'en sortir quelque part, en fait. C'est ça que vous dites, il n'y a pas de fatalité.
Oui. Il reste des possibilités. Il reste des possibilités. Elles sont difficiles à trouver. Elles sont peu visibles. Mais il reste des possibilités.
D'accord. Ces possibilités, on peut les faire émerger. Quelle peut être la méthode? Est-ce que c'est faire comme Jean-Philippe Rameau, essayer de descendre en soi-même? Est-ce que c'est par le biais de l'art? Est-ce qu'il existe même des possibilités de sortir de cette volonté de domination au sein de la science elle-même? En fait, comment on peut avancer sur ce chemin de trouver des nouvelles possibilités?
Trouver que, selon la formule de Heidegger, un libre rapport à la technique. Oui. Il ne s'agit pas de vomir la technique, mais lui trouver un libre rapport. Un jeune ami a employé un adjectif qui m'a beaucoup intéressé dans une conversation que j'ai eue il y a quelque temps. Il disait, il faut être technodistant. Voilà. Nous avons à apprendre à être technodistant.
D'accord. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire entre être technophobe ou technophile,
Exactement. Voilà. Oui. Ni technophobe, ni technophile, mais devenir technodistant. Et c'est un peu à ça que nous invite Heidegger.
Bon, c'est intéressant, c'est une piste intéressante. Alors, on va prendre une petite pause musicale en redonnant la parole à Jean-Philippe Rameau. Et on va écouter un chœur qui est tiré de son opéra Hippolyte et Aricie, que tout soit heureux sous les lois.
Chemin de pensée sur RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, nous étions avec Jean-Philippe Rameau et nous sommes dans l'émission Chemin de pensée, les neveux de René. François Vezin, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce morceau-là de... C'est éminemment gay, hein. C'est très gay.
Rameau est capable d'écrire la musique la plus gay qui soit. Et d'après ce qu'on sait de lui, c'était l'homme le plus sérieux qui soit. Il était d'un sérieux que je qualifierais volontiers de husserlien, en pensant à Edmund Husserl, le maître de Heidegger, qui était un homme d'un sérieux... effrayant.
C'est ça, c'est ce que vous avez écrit dans votre texte, et vous dites que le traité de l'harmonie réduit à ses principes naturels, c'est les méditations cartésiennes de Rameau.
Je prends l'expression méditation cartésienne dont Husserl a fait le titre de ses conférences de Paris.
Oui, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien Husserl, vous pouvez rappeler ce que sont les méditations cartésiennes
Husserl a été invité à faire des conférences à Paris en 1929. Il y est venu. Il a fait des conférences en allemand. Il les a intitulées Méditations cartésiennes, ce qui était un hommage, ce qui était une façon de rendre hommage à Descartes en venant dans le pays de Descartes. Et c'est un texte dans lequel il expose sa propre philosophie, qui est la phénoménologie. Il recomprend la philosophie de Descartes dans le sens de sa phénoménologie. C'est ça la démarche que l'on trouve dans ces conférences.
Et est-ce qu'on peut dire que Husserl cherche justement un autre chemin de pensée, justement, qui n'est pas celui qui a été suivi jusqu'à ça? Ou est-ce qu'il reste dans la même lancée?
Il reste dans la lignée.
Donc pour vous...
Il y a même une espèce de culot incroyable de Husserl qui arrive à Paris et qui dit pratiquement « c'est moi Descartes ».
Ah oui, d'accord. Et donc pour vous, la véritable rupture, c'est avec Heidegger?
Oui, c'est avec Heidegger.
Et donc... Comment on peut, pour quelqu'un qui ne connaît pas justement ça, comment on peut comprendre cette rupture? Est-ce qu'elle apparaît dans le livre qui s'appelle « Être et temps »
Oui, évidemment. « Être et temps » est dédié à Husserl. Mm. « Être et temps se réclame ouvertement de Husserl, notamment il y a un paragraphe méthodologique dans l'introduction dans lequel il dit que la méthode suivie dans ce traité sera la méthode phénoménologique, donc celle que Heidegger a apprise au contact de Husserl. Par toutes sortes de côtés, Heidegger se sépare de Husserl, ou en tout cas approfondit la pensée de Husserl d'une façon telle que Husserl ne s'y reconnaît pas. D'ailleurs, Husserl, à la fin de sa vie, était effaré par l'évolution de son élève. Il avait placé de très grands espoirs dans Heidegger. Il avait cru que Heidegger ferait toute sa vie de la phénoménologie comme lui, Husserl, lui avait enseigné à en faire. Et puis alors, il voit que Husserl, c'est un peu la poule qui a couvé un canard et qui voit le canard partir sur l'eau et qui est affolé.
Il ne reconnaît pas ses petits.
Voilà, qui ne reconnaît pas son
rejeton. Mmh. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce qu'il y a deux phénoménologies, celle de Husserl et celle de Heidegger? Est-ce que c'est quoi, au fond, la phénoménologie? Est-ce que c'est une rupture avec la métaphysique telle qu'elle existe avant? Est-ce que c'est une opposition avec la philosophie telle que la développe Kant et l'existence des phénomènes et des noumènes? Comment on peut comprendre ce mouvement phénoménologique?
Il y a rupture et continuité, c'est-à-dire par certains côtés. Husserl dit la phénoménologie est une science nouvelle. Donc il revendique la nouveauté complète de son entreprise. Mais Heidegger, lisant et écoutant Husserl, puisqu'ils ont eu des contacts personnels directs pendant plusieurs années, reconnaît dans la démarche de Husserl une démarche fondamentale qui est celle de la philosophie elle-même. C'est-à-dire, c'est toute la philosophie, et d'abord Aristote, qui est phénoménologique.
D'abord Aristote, vous dites, oui.
Oui, c'est-à-dire le point, je dirais, de séparation entre Heidegger et Husserl, c'est peut-être ça, c'est-à-dire... Heidegger a dit toute sa vie qu'il faisait de la phénoménologie, ça, il n'a jamais rejeté le mot phénoménologie. Mais après avoir beaucoup appris auprès de Husserl, il a le sentiment que la pensée de Aristote est phénoménologique et que, je dirais presque, que Aristote est un meilleur phénoménologue que Husserl.
D'accord.
Alors ça laissait Husserl pantois.
Oui, parce que lui, il vit encore sur la lancée de la science.
Oui.
Et il veut faire de la philosophie quelque chose qui, bah, comme le dit Descartes, qui est aussi rigoureux que la science.
Aussi rigoureux que la science et qui est un progrès, qui est un progrès sur, sur la science antérieure, notamment la psychologie.
Et avec Heidegger, l'idée de progrès disparaît.
Oui. L'idée de, bon, où sert les progressistes, il se veut un homme de science. Il est d'une génération pour qui être un savant, c'est l'idéal par excellence. Dans un premier temps, Heidegger parle de philosophie scientifique et puis il cesse de le faire à partir de à peu près de 1933, il cesse de le faire.
D'accord. Et pour terminer, pour conclure cette émission, est-ce que vous pensez que c'est une des causes, évidemment c'est pas la seule, mais pour laquelle le travail philosophique de Heidegger est tellement difficile à digérer, à absorber de nos jours, qui quand même vivons quand même avec de grands espoirs fondés sur la science?
Oui, ben, ça c'est sûr que là... La pensée de Heidegger nous met à l'épreuve, elle trouble, elle ébranle beaucoup de choses du monde dans lequel nous vivons et par conséquent elle irrite et elle fait peur et elle suscite, comme on sait, des rejets parfois coléreux, violents.
D'accord. Bon, bah, merci beaucoup François Vezin, je vous remercie déjà pour ces deux émissions, pour tous ces échanges très riches. Je donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs des Neveux de René pour les prochaines émissions. Et surtout, je suis très content d'avoir pu inviter en cette émission la personne à qui je dois tout mon intérêt et toute ma passion pour la philosophie. Au revoir et à l'émission prochaine.